Science.
Oui.
Que c'est là la richesse.
En sachant que moi, j'ai fait le. Quand on nous a sollicité pour intervenir aujourd'hui, j'ai pensé que ce n'était pas très utile parce que notre permanence, elle a déjà 3 ans de recul. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Bon, j'ai sorti quelques éléments clés qui me semblent intéressants, mais pas aussi détaillés que Jean-Yves. Par contre, ce qui m'a semblé plus intéressant, c'est de faire un focus sur les erreurs que nous avons faites. Ou les aspects sur lesquels nous n'avons pas assez réfléchi. Et ça m'a semblé plus intéressant, au cas où, par miracle, une structure telle qu'Actis souhaitait monter un projet similaire. Pas parler d'exemple, mais enfin, bon, en tout cas, les erreurs à éviter. Alors, rassurez-vous, c'est une plaisanterie, hein, ça c'est bien fini, hein. Entrée. Alors donc c'est simplement un petit retour d'expérience autour d'une permanence TROD. Et puis ce qui peut sembler intéressant, en tout cas à l'époque, maintenant ça s'est banalisé, mais à l'époque ça ne l'était pas, puisque nous avons démarré en mai 2008. Donc un partenariat très structuré, très formalisé, entre une association que l'on dit communautaire par facilité, et puis un CIDiste, donc le CIDiste du CHU de Saint-Étienne. Actis est une petite association qui a. Ce n'est pas un CARUD, même si nous donnons 3 Mystery Box par an à Saint-Étienne, ce n'est pas un CARUD. C'est une association de lutte contre le sida extraordinairement banale qui essaye de tout faire et qui. Ma foi. Donc on a démarré la permanence en fin mai 2008, donc évidemment à l'époque uniquement dans le cadre autorisé, celui d'un protocole de recherche biomédicale, on y reviendra un petit peu en détail. Donc nous avons un process qui est très 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 similaire. À celui du kiosque et puis nous avons fait les mêmes choix pour fondamentalement les mêmes raisons que le kiosque. Donc nous faisons un TROD, donc nous c'est un prélèvement veineux, hein, c'est pas capillaire évidemment, que nous confirmons par ELISA et nous dépistons également les hépatites virales et les IST. Pour nous, dès le début, il nous a semblé fondamental qu'il y ait également une recherche et un travail entre guillemets par rapport aux IST. Par rapport au public visé, sur Saint-Étienne, c'était le problème primordial. Ça implique aussi, bien entendu, évidemment, la collaboration avec des soignants. Donc, confirmé par ELISA, on y reviendra peut-être. Donc, nous ne regretterons vraiment pas cette démarche pour plusieurs raisons sur lesquelles nous reviendrons. Donc, si le résultat du TROD est négatif, la personne a le résultat de l'ELISA la semaine d'après. S'il est positif, comme dans le cas du kiosque, il peut l'avoir dès le lendemain. Le laboratoire de viro du CHU fait ce qu'il faut. Donc le pré-test, le prélèvement, le rendu sont assurés par les personnels du CDAG, un médecin, une infirmière. Quelquefois, c'est même pas rare spécialement d'ailleurs, l'infirmière également peut remettre les rendus, c'est pas systématiquement le médecin. Par contre, tout ce qui est, le fonctionnement au quotidien de la permanence, alors l'information auprès des personnes, la diffusion de l'information auprès des personnes évidemment, la gestion des rendez-vous, parce que nous fonctionnons sur rendez-vous, l'accueil, l'entretien, etc., c'est assuré par les bénévoles d'Actis, en l'occurrence des bénévoles du groupe Gay, donc ce sont 7 personnes à tour de rôle qui assurent la permanence. Suivant l'affluence à la permanence, 1 ou 2 bénévoles. Donc ça fonctionne sur rendez-vous, ce qui est certainement un handicap, c'est même certainement le principal handicap. Ça fonctionne sur rendez-vous, sur un téléphone portable. Alors nous avons démarré une fois par semaine et puis bien depuis, au fil des mois, nous sommes arrivés à un rythme bimensuel, donc un mardi sur deux. On verra pourquoi, vous comprendrez tout de suite. La permanence est formatée pour un rendez-vous toutes les 30 minutes, donc au maximum 6 personnes reçues par permanence. Donc nous avons fonctionné dans le cadre du protocole, donc très rigoureux, pendant 2 ans et demi. Et donc depuis le mois de mai, nous ne sommes plus dans le cadre d'un protocole. Dieu merci, ça nous simplifie quand même beaucoup les choses. Donc pendant tout le temps du protocole, nous n'accueillons uniquement que les hommes homosexuels, les gays. Et depuis, évidemment, on a ouvert la permanence, tous les publics en fait, qui est autorisé par le décret du mois de mai, les UDVI, les migrants. Et puis, bon, c'est un petit peu plus large que ça, en fait. Hein. On juge au moment de la prise de rendez-vous si la personne est à risque, entre guillemets. Donc, bien entendu, on accueille aussi maintenant relativement facilement, quand ils pensent à nous contacter, des personnes hétérosexuelles, hommes ou femmes, multipartenaires, ayant eu un risque relativement précis. C'est assez compliqué parce qu'en même temps, on essaye d'être sur un équilibre pour ne pas non plus faire le travail du CDAG. Où on recherche une sorte d'équilibre en ce moment par rapport à ça. Donc, les objectifs à l'origine, bon, fondamentalement, c'est une CDAG hors les murs. Hein. Elle est hors les murs de l'hôpital, elle est dans ceux d'Actis, mais fondamentalement, c'est une CDAG hors les murs. Donc, évaluer l'impact d'une nouvelle stratégie, une CDAG délocalisée en association, et une CDAG, les soignants du CDAG, ayant vraiment un discours tout à fait adapté à une clientèle spécifique. Parce qu'en fait, le dépistage à Saint-Étienne en direction des les gays allait très peu se faire dépister. En tout cas, pas autant qu'on aurait pu le souhaiter. Il y avait de nombreuses difficultés pour d'assez nombreuses raisons autour de ça. Mais personne n'était satisfait de la proportion de gays allant se faire dépister à Saint-Étienne. Et en fait, on a essayé de réfléchir, mais est-ce qu'il pouvait y avoir, quels pouvaient être les éléments concrets qui nous permettraient de développer le dépistage chez les gays? Et puis, vérifier, parce qu'à l'époque, c'était pas sûr du tout, hein, enfin bon, vérifier finalement si, hormis bon, l'intérêt d'un nouvel outil, mais si vraiment pour les personnes, le TROD, ça avait une attractivité particulière. Donc, vérifier cela. Alors, comme c'était le cadre de la recherche biomédicale, c'était pas la permanence elle-même. Enfin, c'était le process autour de la permanence, la collaboration entre les soignants, les non-soignants, etc. Mais l'élément clé du protocole, parce qu'évidemment, le but, c'était pas d'évaluer le TROD lui-même, l'élément clé du protocole, c'était un auto-questionnaire. Hein, 49 items pour mieux connaître les prises de risque, les modes de vie, etc., etc. Très inspiré de l'enquête presse gay, du baromètre gay, etc. Enfin, et ça c'était tout à fait fondamental. Enfin, c'était tout à fait fondamental pour l'association. Le but, c'était, en cas évidemment de résultats problématiques, séropositivité par exemple, de pouvoir proposer que le médecin puisse proposer à la personne une prise en charge qui inclut l'association dans cette prise en charge. Ce que nous avions remarqué, c'était que quand même, le système tel qu'il fonctionnait auparavant, c'était un petit peu le jeu de la patate chaude. Vu le contexte, quand le médecin à l'hôpital annonçait le résultat, etc., il n'y avait pas de proposition systématique, etc. Bref, on voulait travailler là-dessus. Alors, que la personne choisisse ensuite ou pas de faire appel à nous, ça c'est son problème. Mais en tout cas, nous voulions travailler sur le fait qu'il y ait quand même une proposition, une prise en charge qui soit plus globale au moment de l'annonce du résultat. Enfin, une de nos priorités, et puis là, nous n'avons pas vraiment réussi d'ailleurs, c'était quand même notre volonté, c'était d'espérer toucher quand même tous les gays, tous les homosexuels qui ne fréquentent pas les lieux commerciaux. Bon, Saint-Étienne, c'est pas Paris, mais enfin, il y a quelques saunas, il y a quelques bars, etc. Notre priorité, c'était quand même essayer de faire venir au dépistage ceux qui, à la fois, vont très peu en CDAG, et puis en même temps ne fréquentent pas les lieux commerciaux. Alors un bilan, comme ça, rapide, hein, sur quelques éléments clés. Sur le nombre de personnes venues, parce que c'est quand même intéressant des fois de dire de ce qui ne marche pas bien, hein, sur le nombre de personnes venues, c'est la déception globalement. Donc Saint-Étienne, c'est une conurbation de 400 000 habitants. Donc en 3 ans, enfin, en enlevant les mois d'été, puisqu'on ferme en août, hein, mais en 3 ans, nous n'avons fait que 213 prélèvements. Et sur ces 213, 180 primo-consultants. Donc 33 sont revenus 2 fois. Bon, numériquement, c'est clair, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est extrêmement frustrant en 3 ans. Nous n'avons jamais atteint, alors nous n'avons jamais eu le maximum de personnes que nous pouvions accueillir à la permanence, c'est-à-dire 6. Notre record, c'est à 3 occasions, 4 personnes. La moyenne, c'est vraiment très très raisonnable. C'est 2-3 personnes. Actuellement, on tourne à une moyenne de 3 personnes par permanence. Il y a eu pas mal de permanences avec un seul rendez-vous. Donc évidemment, tout ça, ça pousse à s'interroger. On n'a pas forcément toutes les réponses. On a quelques éléments de réponse, mais ça pousse quand même à s'interroger parce que c'est vrai que c'est quand même relativement frustrant. A priori, le premier élément matériel qui pose vraiment problème, ça c'était facile de le déterminer, c'est le système de rendez-vous. Et puis qu'évidemment, les plages horaires sont réduites, etc. On avait choisi ce système de rendez-vous, c'était tout simplement pour un problème de disponibilité du médecin des CDAG. Donc c'était des éléments strictement matériels. En outre, nous voulions faire pièce au principal reproche qui était fait au CDAG de Saint-Étienne, c'est-à-dire des salles d'attente communes. et c'était vu comme un posant problème en matière de confidentialité, etc., etc. Donc nous, nos locaux sont organisés en fait pour que les personnes ne se croisent pas. Et en prenant un système de rendez-vous, on pouvait organiser plus facilement cela. C'est possiblement une erreur. Donc il va falloir continuer à y réfléchir et faire évoluer le système. Alors, le premier retour, donc j'ai analysé, nous avons donc 130 questionnaires seulement. Hein. Donc, le premier motif de recours pour les gens qui viennent à la permanence, c'est clair, net et précis, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, c'est le TROD. Ils viennent pour avoir le résultat tout de suite, c'est très similaire à, évidemment au kiosque. Après, il y a des choses plus compliquées, mais enfin, la première raison, c'est le TROD. Une question, un item que j'ai ressorti, c'est si le TROD... Donc le TROD proposé à Actis et le TROD proposé au CDAG, est-ce qu'il reviendrait plutôt à Actis ou est-ce qu'il irait au CDAG? 83% reviendraient à Actis. Il y a une satisfaction qui est liée à l'empathie, qui est liée à l'accueil. Le fait qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour parler de sexualité, pour parler d'autres choses, ça, c'est apprécié. Mais en même temps, il y a quand même un bémol. Ils viennent à l'association et ils reviendraient parce que, mais ça, il faut que tout le monde ait des... possibilités différentes. En tout cas, ceux qui viennent chez nous, ils apprécient que ce soit une permanence médicalisée. Donc nous, c'est le choix en tant qu'association que nous avions fait pour plein de raisons, mais eux apprécient aussi que ce soit une permanence médicalisée pour les mêmes raisons, fondamentalement, les principales qu'a évoquées Jean-Yves, la légitimité évidemment totale en termes de compétences, de confidentialité du médecin, etc., etc., tous ces éléments-là, parce que je crois quand même que pour la très grande majorité des gens qui viennent à la permanence, le dépistage, ça reste un acte médical et une porte éventuellement vers l'accès aux soins. Donc il y a une satisfaction par rapport au fait que ce soit médicalisé et c'est un argument majeur pour eux pour revenir. Alors quand même des bémols, hein. Il n'y aurait pas eu le TROD proposé à Actis, quand même 80% des gens qui sont venus, ils avaient prévu de faire le test dans les 12 mois. Ça ne veut pas dire tout à fait qu'ils sont dans une démarche de dépistage régulier. Hein. Parce qu'au final, quand même, 50% ont conscience d'avoir pris un risque majeur, l'oubli de capote, pénétration anale, etc., dans les 6 derniers mois. En fait, au quotidien, nous, notre principale difficulté, à notre niveau, et puis la principale difficulté que nous avons, c'est de gérer les délais après la prise de risque, et puis surtout d'essayer, enfin, d'accompagner, de gérer le stress des personnes. Nous, en tant que les médecins aussi, parce qu'ils ne ressentaient pas la même chose au CDAG, et puis nous, évidemment, on ne s'en rendait pas compte, nous, en particulier en tant que bénévoles, ce qui nous impressionne beaucoup, c'est que beaucoup de gens sont énormément stressés. En fait, ils veulent un résultat rapide. Ce sont des gens qui ont conscience d'avoir, pas tous évidemment, mais la majorité sont des gens qui ont conscience d'avoir pris un risque. Ils hésitent pour aller se faire dépister, ils dépassent le temps du traitement d'urgence, et puis finalement, ils entendent parler du TROD, c'est le déclic. C'est, bah, je me jette à l'eau, j'ai le résultat tout de suite, autant l'avoir tout de suite, et puis voilà. Quoi. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais voilà. Donc pour nous, le stress à gérer, c'est compliqué. Ça veut dire aussi que quand les gens sont très stressés, il y a finalement plein de choses qu'on ne peut pas faire. En particulier, un entretien extrêmement structuré, en plus dans des délais très courts, ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut vraiment s'adapter à la demande. Ce qui remonte quand même relativement massivement, le principal frein au dépistage, bon, c'est le refus ou la peur de savoir. Je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que l'argument un petit peu massu, c'est bien de savoir, vous êtes soigné plus tôt, donc, mais il y en a tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi entendable par tout le monde. Il y a quand même beaucoup de gens, même quand ils savent ces arguments-là, purement scientifiques, médicaux, tout à fait valables, hein, on est d'accord. Hein. Je ne suis pas sûr que pour eux, dans leur esprit, la balance avantage soit encore bien évidente. Il faudrait peut-être complexifier le message. Enfin, mais là, on va pas passer là-dessus, mais on va pas... peut-être pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais énormément de choses qui remontent, en particulier depuis les derniers 18 mois, depuis qu'ils sont relativement facilement accessibles par Internet, beaucoup, beaucoup de besoins et de demandes et de renseignements exprimés par rapport à l'autotest. Et puis peut-être que c'est une question qu'il faudrait quand même, sur laquelle on finit par se penser sérieusement, parce que si l'on parle après tout de la nécessité ou de l'utilité aussi d'un dépistage démédicalisé, ben finalement la meilleure réponse ça pourrait être l'autotest. Non, c'est simplement une piste de travail, hein, mais si si on veut répondre finalement aux besoins de tout le monde et à la demande de tout le monde, ben, l'autotest, ça vaudrait peut-être quand même le coup d'y réfléchir. Mais bon, je ne sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Ça comme ça. Alors les résultats. Ben, les résultats, donc, sur ces 213 actes, hein, ben, VIH plus zéro. Bon, c'est formidable, on est bien d'accord, la question n'est pas là. Hein. Mais simplement, c'est quand même. Nous, ça nous interroge beaucoup, donc on essaie de. Bon, certes, Saint-Étienne n'est pas Paris, mais enfin, quand même, bon, voilà. Et ce sont tout à fait des gens qui sont absolument dans les créneaux théoriques idéaux par rapport à la prise de risque. Hein. Nombre de partenaires, 50% plus d'un partenaire dans le mois, bon. Aucun problème. Bon, VIH positif, zéro. Pas non plus de problème de primo-infection. Bon, voilà, tant mieux. Ça confirme évidemment que Saint-Étienne n'est pas Paris. Hein. Nous n'avons eu qu'un seul faux positif, donc quasiment tout au début, dans les 4 premiers mois de la permanence. Donc à l'époque, on travaillait avec le Determine, maintenant on travaillait avec l'INSTI. Bon, tant mieux aussi, parce que ça, c'était une grande crainte qu'on avait au début. Donc il y a 3 ans et demi, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, les médecins en particulier avaient quand même pas mal crainte par rapport aux faux positifs. Bon, ça ne s'est pas produit. Alors, les IST, bah, c'est pas grand-chose non plus, quoi. 5 syphilis actives, hein, primo ou secondaire, plus des cicatrices de Sugiri, pas d'hépatite virale active. Protection vaccinale VHB qui est excellente, elle est de 64%, mais de nombreux antécédents d'IST chez à peu près 60% des gens qui sont venus à la permanence. Une dizaine de syphilis, en gros, bon, beaucoup, beaucoup de gonococcie, donc beaucoup d'antécédents d'IST, mais pas de choses fondamentalement graves. Donc finalement, tout ça, ça nous a assez surpris, pas mal surpris, parce qu'une population qui est quand même globalement tout à fait dans les créneaux, ça pourrait être bien pire, l'essentiel évidemment étant que nous n'ayons eu aucun VIH positif. Comment ? Oui, 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 mais on pensait que ce serait pire, quoi. Voilà. On pensait que ce serait pire. Oui, oui, oui. Bon, on va aller là-dessus. Alors, deux approches du soin. Ben non, il n'y a pas deux approches du soin quand on travaille avec des soignants et que l'on est des bénévoles. D'abord, tout simplement, ils ne sont pas soignants, ils ne font pas de soins. Donc, bon, là. Par contre, il y a des difficultés qui se sont posées. On va aller vite là-dessus, mais des difficultés qu'il a fallu quand même progressivement travailler ensemble et puis les régler. Nous avions une très grande différence de vision sur le cas du RBM. Alors, nous, association... Personne ne l'ignore, je pense. Nous avons été obligés de rentrer dans ce cadre imposé de recherche biomédicale. Et il y a 4 ans, quand la DGS a commencé à nous parler de cela, on l'a même vu comme un frein volontaire pour nous empêcher finalement de faire du TROD. Parce que tout le monde imaginait que ce serait un protocole, ce serait extraordinairement lourd, etc., etc. Donc nous, finalement, association, on s'était dit, bon... On va travailler sur un protocole de recherche médicale, mais nous, association, on n'était vraiment pas dans le côté recherche scientifique, c'est clair. Parce que pour nous, la validité du TROD, mais elle était validée depuis belle lurette ailleurs. Hein, donc voilà. Donc pour nous, c'était un petit peu... Mais le médecin investigateur, évidemment, il a fait son devoir, il a assumé ses responsabilités. Et le médecin investigateur du CHU, il n'avait pas cette vision-là. Donc il a fallu vraiment travailler très, très sérieusement sur le protocole, avec des procédures qualité d'une rigueur extrême, des évaluations extrêmement lourdes. Et ça, des fois, on avait le sentiment quand même que ça allait un petit peu trop loin. Bon, donc, ça s'est réglé, on y a travaillé, mais je ne vous cache pas qu'on est content d'être sorti du protocole.
Une vie après le protocole.
Alors, donc, bon, comme vous l'imaginez, nous ne sommes pas très satisfaits du résultat quantitatif. Alors, on est en plein dialogue là-dessus, on y a déjà travaillé il y a 1 an et demi, mais on est en plein dialogue là-dessus avec les médecins. Là-dessus, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur qu'est-ce qui fait le succès d'un programme ou pas. Bon, bien entendu, le médecin, il va voir ça par rapport à la masse, les résultats statistiques, si en plus on fait tous ces efforts-là et qu'on ne trouve même pas des séropos, sans parler de la disponibilité, puisque bon, les médecins viennent travailler ce soir, bon, tous ces problèmes matériels, etc. Donc évidemment, les médecins s'interrogent. Et puis nous, nous ne sommes pas tout à fait sur la même échelle de valeur. Nous, finalement... La personne est venue, elle est contente, même s'il n'y en a que 2, on a pu bien discuter, on a pu créer du lien, Et puis on suppose que si à l'avenir elle aura un problème, elle hésitera moins à faire appel à nous, etc., etc. Tout ça, eh ben on est content quand même. Voilà. Donc on cherche le bon compromis. Si évidemment on trouve pas le bon compromis, il faudra passer à autre chose. Alors, quand on travaille avec des soignants, et là aussi il a fallu y travailler sérieusement, mais vous le savez aussi bien que moi, mais enfin bon, il faut vraiment que aussi bien la personne qui vient à l'association qu'en interne à l'association, que tout le monde sache très clairement qui fait quoi et dans quel cadre. Pour éviter éventuellement certaines dérives, pour éviter que des bénévoles se prennent pour des docteurs, ce qui est certainement la plus grossière erreur que l'on puisse faire, ou inversement, quelquefois aussi, quand même, des soignants qui... Bon, voilà. Donc il faut travailler sérieusement à ça avant et pour régler les problèmes quand ils arrivent. Une chose très importante, ça paraît banal de le dire quand on est bénévole, mais il a fallu y réfléchir et y travailler aussi avec les médecins. Moi, en particulier, en tant que coordinateur de la permanence, qui fonctionne avec des bénévoles, si les bénévoles ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font pendant la permanence, s'ils n'ont pas le sentiment d'être utiles, et si d'une certaine façon pour eux ce n'est pas gratifiant, entre guillemets, eh bien ça ne marchera pas très longtemps, et puis il n'y aura plus personne. Vous verrez à la fin les avantages d'avoir des bénévoles, mais bon, voilà. Il y a quand même des inconvénients. Je veux dire par exemple que quand il est prévu dans une permanence, le médecin reçoit la personne 10 minutes, le prélèvement entre 10 et 15 minutes. Pendant un temps d'attente, il y a un bénévole qui discute avec la personne. Vous voyez, quelque chose d'assez rigide, eh bien, il faut que ce soit respecté. Parce que si, par exemple, le médecin, lui, sur le temps prévu, il parle une demi-heure au lieu de 10 minutes, voilà, ce sont des choses comme ça sur lesquelles il faut travailler pour que, évidemment, le bénévole n'ait pas simplement l'impression qu'il est un ouvreur de porte. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Et puis que c'est ensuite, en fait, le médecin qui fait tout. Il faut travailler à un équilibre. Alors, le vieux débat, on va pas... Bon, c'est un vieux débat. Le professionnel, c'est la compétence, bien entendu, tout le monde le sait. C'est la rigueur, c'est l'exigence, c'est etc., etc. Versus amateur, quelquefois, qui est tout l'inverse, hein, bien sûr. Donc, il faut aussi travailler sur ces aspects-là et apprendre à se connaître chacun et puis surtout créer un climat de confiance par rapport à ça. Parce que sinon ça ne pourra pas marcher. Bon, je ne vous apprends rien, je le sais, hein, mais ce sont des choses tellement évidentes que des fois on ne pense pas y travailler avant. Parce qu'en particulier, nous, à Actis, on travaillait avec des médecins, bien sûr, les corévis, tout ça, mais finalement ça ne concerne pas tous les bénévoles. Et puis finalement, en réfléchissant à tout ça, on avait très peu, quasiment rien, de vrai travail commun, en commun, autour des personnes elles-mêmes. Hein, on fait des conférences, voilà, des choses comme ça, mais très peu de vrai travail en commun autour des personnes. Et quand on est ensemble à travailler autour de la personne, c'est beaucoup plus compliqué que de se serrer la main dans un couloir de congrès. Il a fallu beaucoup travailler sur cette notion de secret partagé, qui est quelque chose de très banal pour des soignants qui travaillent en équipe, qu'il est aussi pour nous en association, mais d'une façon un petit peu différente. En fait, il a fallu réfléchir sur le secret partagé entre soignants et bénévoles. Bon, voilà, il a fallu beaucoup y travailler parce que c'était très important. J'ai fini. J'ai été très rapide et puis voilà, mais c'est comme ça.
Des questions ?
Bertrand de Bayonne, volontaire à aide. Juste une question par rapport pour le TROD. L'objectif, c'est quoi ? C'est de trouver les 50 000 hypothétiques personnes séropositives ?
Oui, c'était notre premier objectif. Oui, c'était l'accès aux soins, le dépistage et tout ce qu'on peut faire autour du dépistage. Il y a des nuances avec, par rapport à aide, oui, bien sûr. Oui,
parce que là, dans les constats qui étaient faits, il y avait une question qui était posée, c'est satisfaction ou non. Où est la satisfaction ? Trouver des personnes séropositives ou non ? Est-ce qu'il est plus important de les trouver quand même ? Ou est-ce qu'il est plus important de satisfaire toutes les personnes testées et de leur dire non, vous n'êtes pas séropositive ? On sait qu'il y a une population séropositive qui ne le sait pas.
Il y a tout ça. Mais c'est vrai que, par exemple, mais n'oublions pas que nous avons commencé notre réflexion il y a 4 ans, que les choses ont évolué énormément par rapport au TROD et par rapport à tous les concepts autour de ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'au moment où nous avons monté le protocole, mais nous y réfléchissons énormément, mais c'est, le problème qu'on a, c'est celui de, vraiment de la gestion du temps. Et bon, voilà. Mais c'est vrai, par exemple, que nous n'avons quasiment absolument pas. Alors la réduction des risques sexuels, je vous en parle même pas, hein, parce que bon, on peut pas nous le reprocher quand même. Il y a 4 ans, mais c'est vrai que nous n'avons absolument pas mené une réflexion structurée par rapport à un entretien de prévention, absolument pas. C'est clair, net et précis. Hein, c'est.
Tout à fait. Merci. Une autre question. On va déborder un peu. Hein. Vous avez compris.
C'est pas forcément une question. Par rapport notamment au TROD et au fait d'annoncer des résultats négatifs, on avait eu une expérience comme ça en Espagne sur le VIH qui avait été menée par des pharmaciens. Et les pharmaciens, ils trouvaient ça génial parce que sur 100 personnes en fait, qui venaient se dépister dans la pharmacie, 98-99 fois, ils disaient « Génial, t'as que dalle, continue à te protéger ». Voilà à peu près le truc. Et je pense que bon, c'est vraiment un élément qu'on peut quand même partager. Après, moi, je commence à avoir un souci, à force d'entendre un peu les différentes expériences sur les TROD, c'est ça me fait penser un peu au mec qui, à 23h minuit, tourne autour d'un réverbère pour chercher ses clés. Et il y a un mec qui lui demande, mais vous êtes sûr que vous avez perdu là ? Et le mec, il dit, non, mais il y a de la lumière. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, ce truc-là ? C'est... J'ai un peu l'impression qu'on est, comment on va dire, mono-ciblé, poly-ciblé, et qu'il y a un moment, je ne sais pas lequel, ça dépend des expériences, ça, des différentes structures, mais on a fait le tour.
Oui, tout à fait. Hein,
et ça, je pense que c'est vraiment un truc qui me semble fondamental. Et le truc... que moi j'aurais vraiment envie de dire, c'est élargissons le dépistage.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord.
Voilà.
Tout à fait, absolument. Merci. D'accord. Pour terminer, alors par contre, l'avantage de ce système, c'est que nous, notre budget annuel, c'est moins de 5000 euros, quoi. Moins de 5000 euros. Eh ben oui, mais quand on est une petite structure, il faut... Et que l'air. Enfin bon, ouais.
Merci. On va accueillir Gérald. Je retiens effectivement ce que tu as dit. Je pense que les TROD, c'est un outil qu'il faut utiliser pour mettre de la nouveauté. Hein. C'est faut pas que le couple dépisteur-dépisté vieillisse. Il faut qu'on arrive à faire autrement et qu'on utilise ça